Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI bien sûr et à l'écoute, on est vendredi donc, du Café des Sports avec nos invités qui sont déjà là dans ce studio aujourd'hui. Nous avons Xavier Barré, bonjour Xavier.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Avec Shérif Guémour aussi de SoFoot, bonjour Shérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Alejandro Valente, El Jefe, bonjour Alejandro.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors Rémi, il prend quelques vacances hein, parfois, ça lui arrive, donc Gilles Verdez le remplace aujourd'hui. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Bienvenue dans ce Café des Sports.
Merci.
Après les vacances, hein, parce qu'on rentre tous au compte-gouttes pour certains et surtout avec quelques couleurs quand même, des couleurs d'été. Au cœur de nos débats donc du jour, eh bien le calcio qui est de retour, alors avec ou sans suspense, hein, la Juventus quintuple championne d'Italie, 5 titres consécutif, peut-elle être mise en danger par un autre club italien, romain, milanais ou napolitain? On cherche les stars dans ce championnat, tant du côté des joueurs que des entraîneurs. Une compétition arrivée vraisemblablement à un tournant, nous allons en parler car les capitaux étrangers affluent et pourraient le rendre à nouveau attractif, ce championnat. Le football des JO à l'heure des médailles pour le Brésil, ce sera or ou argent chez les hommes, emmenés par Neymar, qui bien sûr ne veulent pas, ces hommes brésiliens ne veulent pas que le titre en football masculin, ils le veulent aussi en football féminin. Alors là, ça sera difficile, elles ne sont que en finale pour l'autre médaille, la médaille de bronze, les filles autour de Marta. Et nous verrons qu'il y a une chose en commun entre ces deux finales, et bien c'est des Allemands et des Allemandes présents dans les deux finales olympiques. Chapeau. Un rappel à l'ordre pour Franck Ribéry, alors que le Bayern Munich a bien besoin de lui cette saison. L'ancien international français montre un peu trop ses muscles à ses adversaires, ce qui est très critiqué en Allemagne, même par son capitaine Philipp Lahm. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Un hymne à la gloire de la Juve, la Juve qui a conquis 5 couronnes de champion ces 5 dernières saisons, malgré les changements d'entraîneur, malgré des départs aussi, parfois poussifs en championnat, et puis aussi des départs dans l'effectif. Mais la Juve est toujours au rendez-vous, et sans doute encore cette année, grâce à sa défense de feu, hein, on l'a vu d'ailleurs, puisque c'est celle de l'Italie pendant l'Euro, Buffon, Barzagli, Bonucci et Chiellini, et puis à l'avant, sans Alvaro Morata, mais avec des Argentins. Alors on a Paolo Dybala qui était là et qui reste, et surtout une arrivée, celle de Gonzalo Higuaín, acheté à Naples pour 90 millions d'euros.
Tout le monde sur la planète connaît la Juventus. C'est une grande équipe qui a gagné d'importants titres et c'est pour cela que je suis là. Objectivement, qu'il soit jeune ou vieux, tous les fans de football connaissent la Juventus. Cela a été l'une de mes motivations, la mentalité de gagnant, le projet du club. Donc je suis très content d'être ici.
Alors il est très heureux d'être là, il veut des titres, Gonzalo Higuaín, mais cette insolente domination dans la botte italienne, hein, sous la direction de Massimiliano Allegri, qui est toujours là, suffira-t-elle à rendre le calcio intéressant, Xavier ?
Oui, et puis Antonio Conte avant lui, hein, puisqu'ils ont enchaîné les titres depuis sur les 5 dernières saisons. Oui, c'est vrai que la Juventus est sans rival dans le championnat d'Italie, ou comme le Bayern...
L'a été, en tout cas.
Oui, ou le Bayern sans grand rival, si ce n'est Dortmund un peu la saison dernière en Allemagne, et le Paris Saint-Germain en France. Donc on se retrouve aujourd'hui avec trois des 5 grands championnats qui sont presque promis à leur adversaire, et je crois que ça, forcément, ça joue contre l'intérêt des spectateurs et des investisseurs pour ces championnats-là, malheureusement.
Gilles.
Il y a eu un appauvrissement tactique quand même, parce que l'Italie, c'était quand même un modèle de rigueur, un modèle tactique. Alors il y avait bien entendu les deux clubs de Milan, qui étaient les deux grands clubs pendant des décennies en Europe. Moi j'ai connu leur flamboyance, notamment l'AC Milan, c'était impressionnant, l'Inter de Milan qui faisait rêver aussi. Mais je trouve que tactiquement, les Italiens, avec leur football très fermé, se sont un peu coupés du reste de l'Europe. Et maintenant ils ont du mal à remonter la pente, il y a... assez peu de formation. C'est un modèle qui est pour moi très très affecté, qui n'a pas réussi à se renouveler. Et c'est vrai que la situation est quand même assez délicate. Le calcio a perdu de sa prééminence.
Chérif, vous trouvez aussi que c'est moins intéressant de regarder le calcio les week-ends ?
Ouais, le calcio, enfin le foot italien en général a pris du retard, mais ça a commencé d'abord avec les stades qui sont devenus vétustes, la violence dans les stades parce qu'il y a une affluence qui est en chute libre. Au niveau de l'attractivité, on se rappelle que encore au début des années 2000, milieu des années 2000 encore, il y a une grosse attractivité. Soit c'était le football italien, enfin c'était le championnat italien, soit c'était le championnat anglais. Là, ils ont pris beaucoup de retard et dans l'optique, parce qu'on va en parler après, des nouveaux investisseurs qui seraient susceptibles d'arriver dans les clubs italiens, est-ce qu'ils vont faire leur retard sur le football espagnol et anglais ? C'est pas gagné.
Alejandro ?
Bah disons que l'Italie, c'était un peu le football de papa. Hein. Les grandes familles, les grands clubs étaient liés généralement à une famille.
Un grand groupe industriel.
Agnelli pour la Juventus, Moratti pour l'Inter, Berlusconi pour le Milan AC. Donc c'est un modèle qui a vécu. Aujourd'hui, dans les grands championnats, on rêve plutôt de la Première Ligue, d'un modèle qui attire des nouveaux investisseurs, qui multiplie les sponsors, qui rend les matchs et la compétition plus attractives. Et donc, sur ce plan-là, l'Italie est très en retard. Cela dit, on a souvent donné pour mort le football italien, voilà, qui réussit souvent à renaître. Et on l'a vu à l'Euro, quand même, cette sélection d'Italie qu'on promettait au naufrage a finalement été une des plus emballantes de cet Euro.
Juste un petit mieux. Oui, il y avait quand même un petit mieux au niveau du championnat italien par rapport aux autres saisons où là vraiment c'était la cata. Mais évidemment, il y avait que la Juve qui surnageait. Il y a eu quand même, j'ai eu quand même quelques bons matchs l'année dernière. Ça revient un peu. Et même au niveau du spectacle et même tactiquement, j'ai trouvé que c'était un peu mieux qu'avant. Mais voilà, il y a un retard.
Il y a un retard à combler. Angleterre. Gilles?
Il y a eu aussi des scandales qui ont altéré l'intérêt du public italien pour son football. Le regard critique n'est pas venu que de l'étranger. Hein.
Et très récemment.
Récemment.
Parce que c'est pas seulement l'histoire ancienne.
Très récemment. Entre les championnats qui ont été retirés, les matchs truqués, les grands entraîneurs et grands joueurs mis en cause.
Les sanctions même. Les sanctions. Comptées, dont on parlait tout à l'heure.
Absolument. Donc on a eu des titres sur tapis vert. On a eu énormément d'extra-sportifs qui ont contribué justement à cette... Alors peut-être pas déliquescence, mais cette chute au niveau du ranking européen, c'est vrai que le football italien a largement perdu. Hein. Il n'est plus dans le podium.
Maintenant.
Exactement.
Ils sont quatrième, ils ont été longtemps premiers. Dans les années 90, c'était le numéro un mondial, c'était le championnat où il fallait aller. Déjà dans les années 80, quand ils ont ouvert les frontières, parce qu'il faut rappeler qu'avant, les frontières étaient interdites aux étrangers. C'est qu'au début des années 80, qu'ils ont réouvert progressivement les frontières, permettant l'arrivée de joueurs comme Michel Platini, Zico, Toninho Cerezo, Falcao, et d'autres.
Et
puis les Allemands, bien sûr. Et donc, c'est ainsi qu'en 1990, la moitié de l'équipe d'Allemagne championne du monde joue en Italie.
Exactement.
Or, aujourd'hui, les grands joueurs ne vont plus en Italie, à l'exception de la Juventus. Et encore, ils y restent pas, comme Pogba qui retourne en Angleterre. Aujourd'hui, les grands joueurs sont soit en Espagne, soit en Angleterre, quelques-uns au Bayern. Et aujourd'hui, la Juventus a beaucoup de mal à maintenir une équipe de niveau européen dans un championnat où il y a effectivement un désert. Et c'est ça, le problème, c'est que à cela se rajoute un autre phénomène qu'évoquait Gilles Verdez d'ailleurs, c'est le désintérêt du public et au-delà même des jeunes pour le football. Aujourd'hui, vous regardez les compétitions de jeunes, l'Italie, elle est présente, mais
presque
souvent...
Les finalistes, quand même, c'était les moins de 17. Hein,
oui, de temps en temps, ils font un coup, ouais. Mais dans les années 90, l'Italie, je crois, gagne 5 des 10 championnats d'Europe Espoir.
Quand c'était
je crois qu'ils en gagnent. Ils gagnent les derniers encore en 2004 avec la génération Pirlo Totti, où c'est 2000 et 2004, qui sont ensuite champions du monde en 2006. Aujourd'hui, dans les équipes, dans les championnats d'Europe Espoir, l'Italie, elle a disparu complètement, comme la France d'ailleurs.
Parce qu'on fait plus jouer les jeunes.
Et pourquoi est-ce que les jeunes ne jouent pas? Parce que les Italiens sont rentrés dans un système de business, et ça depuis de nombreuses années maintenant. Le football est devenu un business. On recrute à tour de bras en Europe centrale, dans l'ex-Yougoslavie, en Amérique du Sud. On constitue des effectifs pléthoriques pour ensuite revendre. Mmh. Et il n'y a pas de place pour les jeunes Italiens, effectivement, pour qu'ils puissent jouer.
Ils ont beaucoup de mal.
Et les meilleurs joueurs, effectivement, dès qu'ils sont un peu bons, on les vend aux Anglais ou aux Espagnols.
Il y a un phénomène intéressant, c'est la qualité des entraîneurs italiens. Quand on voit Conte, Ranieri...
Quatre grands entraîneurs italiens sont partis vers la Ancelotti. Première Ligue cette année.
Et il y a aussi Ancelotti au Bayern. Mmh. Donc, quelque part, il y a encore de la qualité chez les techniciens.
Il y a encore de l'espoir qu'on tactique.
Sauf que que il ne travaille pas en Italie. Et Massimo Allegri, il est promis pour aller à moyen terme, soit en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre, lui aussi.
Gilles. C'est vrai que Alejandro en parlait, mais le symbole, c'est Berlusconi quand même. Le football italien a chuté.
Le dernier rempart.
Ben oui, le football italien a chuté avec l'AC Milan quand Berlusconi a chuté, a été lui-même englué dans des scandales
politiques, mais qui ont rejailli sur son entreprise.
Absolument. Il y a eu moins de budget. Et pour moi, le symbole qui m'avait vraiment marqué, c'est quand l'AC Milan vend Ibrahimovic et Thiago Silva au PSG du Qatar. Là, on a un renversement de tendance. Jamais ça aurait été possible dans les années 90.
Il voulait rester
en plus. Il pouvait plus les payer. Dans les années 90 encore, même au début des années 2000, on allait du PSG, les grands joueurs, à Milan. Et là, c'était l'inverse.
Bah, on a une finale Juventus Milan AC en Ligue des Champions. C'est quoi? C'est en 2003.
C'est l'année où effectivement Pavel Nedved est Ballon d'Or. Donc oui, c'est en 2003.
2003, c'est pas si vieux. Hein.
En tout cas, Alejandro, il y a une chose notable. Donc, c'est l'arrivée de capitaux étrangers, parce que on voit que finalement, pour s'en sortir, alors Berlusconi est le dernier récent et important à avoir vendu donc à un club chinois. Ça a été un serpent de mer que Matteo nous racontait souvent ici dans Radio Foot, mais il y avait un Indonésien qui est arrivé à l'Inter, c'est-à-dire dans les clubs si symboliques. Les Américains avaient déjà repris la Roma. Il y a comme ça une arrivée de capitaux, mais pour l'instant, on a quand même le sentiment que ça se voit pas encore.
Bah, c'est difficile d'échanger complètement la logique d'une évolution qui n'était pas très favorable. Aujourd'hui, les investisseurs étrangers sont quand même attirés non seulement par l'Italie, mais par l'Espagne, par l'Angleterre, par plein d'autres championnats, la France, etc. Donc on se dispute un petit peu ces investisseurs étrangers. Aujourd'hui aussi, l'état des finances mondiales est moins sécurisant qu'il ne l'était il y a quelques années. Donc ces fameux investisseurs sont beaucoup plus prudents à l'heure de mettre leur bille. Mais bon, l'Inter comme Milan AC ont trouvé quand même des personnes venues des Chine qui vont investir certains capitaux. On voit des frémissements dans les marchés des transferts, même si aujourd'hui, comparé avec d'autres championnats, quand on voit les trois top joueurs payés par les clubs italiens, est venu de l'étranger. Vous avez Milik, le Polonais, qui est arrivé à Naples. Vous avez Salah, l'Égyptien, qui est arrivé à la Roma. Et Zeko également à la Roma. Donc, c'est les trois transferts les plus chers payés par des clubs italiens à l'étranger. Donc, ça montre quand même qu'on est très, très loin du compte.
Et même la Juventus. Même la Juventus. La Juventus, qu'est-ce qu'elle fait sur le marché des transferts cette année? Elle récupère Higuain, effectivement, pour 90 millions d'euros, mais elle l'achète en Italie. Elle ne va pas le chercher à l'étranger.
Elle le surpaye aussi.
Elle le surpaye, absolument. Et sinon, il récupère Daniel Alves, qui était en fin de contrat à Barcelone. Il récupère Mehdi Benatia, dont le Bayern ne voulait plus.
Mais ils sont très bons dans le recrutement en général. Ils font toujours bonne pioche.
Oui, notamment Morata, hein, on s'en souvient.
Mais quand tu vois ce qu'ils perdent avec Pogba quand même et Morata, justement, tu te dis que la Juve a du mal à attirer des top players sur le marché international.
Pour en venir aux investisseurs, attention, les nouveaux investisseurs, ils n'ont pas la garantie qu'ils ont que les investisseurs en Angleterre, c'est-à-dire le retour sur investissement. En Angleterre, on peut gagner de l'argent en misant sur un club, en investissant.
Ouais, mais ça prend du temps aussi de gagner des titres. On se souvient par exemple d'Abramovich.
Oui, mais avec les droits télé qui sécurisent une bonne partie du budget, on retombe relativement vite sur ses jambes. C'est pas le cas en Italie. En Italie, on prend des risques. Par exemple, miser sur les 2000 ans aujourd'hui, on mise sur des grands noms, des grandes dynasties du foot italien. Mais va falloir
sur le passé.
Voilà, déjà. Va falloir déjà aller déloger à la fois la Juve devant, le Naples qui quand même va rester compétitif. Là, pour le titre, va falloir attendre encore. Quelques saisons, à mon avis.
Il y a un problème qui est lié à l'appauvrissement général du football au niveau tactique, technique. En Italie, jusqu'au 10e du championnat, avant, vous aviez de très bonnes équipes qui étaient extrêmement performantes dans les coupes européennes, très difficiles à éliminer, tactiquement très au point. Alors, ça faisait parfois des 0-0 à répétition, ok, mais où ils gagnaient 1-0. Mais maintenant, le niveau moyen du championnat a baissé. Les équipes moyennes du championnat d'Italie, elles sont faibles par rapport à ce qu'était leur niveau il y a quelques saisons.
Et le niveau des joueurs, parce qu'on a vu dans le classement du Ballon d'Or, les Italiens ont eu tendance à disparaître, même des listes des finalistes ces dernières années.
Exactement.
Bah, le meilleur exemple, c'est Verratti. Hein. Il est à Paris, il joue pas en Italie. Il a été pris très jeune parce que bon, on commençait à s'intéresser à lui, mais pas comme Paris qui a vraiment l'a vraiment chapardé.
Ouais. Alors du côté justement de Milan, on parle de Milan parce qu'on a tous dans la tête ce que je vous disais, chérif, c'est-à-dire le passé. Hein. Et les interistes, eh bien, ils ont décidé de changer leur entraîneur italien, Roberto Mancini, qui rentrait de Manchester City pour un néerlandais, n'est-ce pas, shérif? Et c'est Frank de Boer qui arrive de l'Ajax.
Bien sûr, la Juve a une grande équipe avec de bons joueurs cette saison encore. Donc ça va être difficile, mais notre objectif, c'est d'être moins loin d'eux que les années précédentes. On va se battre pour leur rendre les choses plus difficiles. Tout le monde veut remettre ce club à la place qu'il mérite. Je suis heureux d'être ici et impatient de démarrer.
Xavier, une chose qu'on... On a l'impression finalement que, par exemple, l'Inter, qui a investi beaucoup d'argent, mais il y a plus de gens dans le staff pour parler marketing et gérer l'argent que finalement pour gérer un bon effectif et des bons joueurs.
Le problème de l'Inter, ça a toujours été que c'est un club qui achetait beaucoup et qui avait peu de résultats. Et les résultats qu'il a eu cette série de titres consécutifs, ça a été quand la Juve s'est retrouvée reléguée en deuxième division. Et c'est vrai que le Milan AC a eu un coup de moins bien au milieu des années 2000.
Avec Mourinho.
Le couronnement, ça a été effectivement ce triplé en 2010 sous la conduite de José Mourinho. Et puis derrière, comme d'habitude, Mourinho laisse un chantier, laisse le club
un
en chantier pour filer à Madrid. Et derrière, compliqué, impossible de reconstruire. Moratti,
et de rebondir,
la famille Moratti, qui était quand même liée à l'Inter historiquement, a fini par vendre le club à un Indonésien, Eric Thohir. Et depuis, lui, il essuie un peu les plâtres du bisu dans cette affaire, parce qu'il dépense beaucoup d'argent sur le marché des transferts, mais les résultats ne sont pas là. Jusqu'à virer Mancini, là, en tout début de saison, puisqu'il était encore au club il y a quelques jours, pour le remplacer au pied levé par Franck de Boer, qui a aucune expérience du football italien. Donc ça laisse encore, là encore, on sent qu'il y a vraiment un manque d'expérience, un manque de maîtrise des événements.
L'Inter a toujours été un club instable, mais avant c'était instable dans la réussite. Il y a eu des Ligues des Champions dans les années 90. Moi, je me souviens de l'Inter gagne la Coupe d'Europe à Paris, là, à 3-0. C'est une équipe extraordinaire avec Ronaldo, Djorkaeff. Enfin, ils ont une super équipe. Après, il y a eu l'ère Mourinho, mais il y a toujours eu la valse des entraîneurs, des achats faramineux, mais il y avait les succès.
Depuis, et les résultats.
Et du jeu. Depuis quelques années, il y a une rotation. C'est comme à l'AC Milan. On vire des entraîneurs en permanence, mais il n'y a plus de résultats. C'est plus des sorties par le haut, c'est des sorties par le bas.
Alejandro, et finalement, cette Juve, un peu comme tout le monde, elle lorgne, enfin, cette Juve et ce championnat lorgne finalement vers la première ligue qui a l'air de faire un peu autorité en Europe.
Forcément, quand on voit les millions qui tombent dans l'escarcelle des clubs anglais, tout le monde rêve de les imiter.
Ils ont pris de l'avance.
C'est pas facile parce qu'ils ont créé un modèle qui marche extrêmement bien, qui se vend partout dans le monde, et c'est quelque chose qui est très difficile à atteindre aujourd'hui pour un football italien qui a pris énormément de retard.
Et un football anglais qui était moins paternaliste que ne l'a été justement ce football italien, shérif.
Ils ont pris du retard, y compris sur les tournées internationales d'été. Alors après, sur l'utilité, on peut en discuter, mais les Anglais entre les États-Unis et l'Asie, les clubs italiens le font. Ils l'ont fait un peu, mais ils l'ont pas fait de façon industrielle.
Même le PSG le fait.
Ils ont le meilleur exemple, base de fans.
Le meilleur exemple, c'est l'Udinese, qui a été longtemps un club qui était 5-6e dans le championnat, qui est même arrivé en phase de poule de Ligue des Champions une année.
Mais gros l'Udinese de
la famille Pozzo aujourd'hui, elle est propriétaire d'un club en Espagne, elle est propriétaire de Watford en Première Ligue. Donc ils préfèrent. L'Udinese a longtemps été un club qui recrutait beaucoup de Sud-Américains, notamment Vidal et les Chiliens. Et bien aujourd'hui, ils les prennent et ils les envoient à Watford directement, parce que l'Udinese est devenu le point de ralliement de leur club.
Et l'Angleterre a réussi aussi sa transformation, shérif le disait, au niveau des stades, mais au niveau de l'affluence. Alors après, on peut le contester, il n'y a plus d'ambiance, Mourinho s'en plaignait encore aujourd'hui dans les stades anglais, parce que c'est la classe moyenne supérieure ou supérieure qui peut se payer des billets qui coûtent très cher. En Italie, il n'y a pas eu ce travail, cette transformation.
Il y a toujours eu
la violence, mais il n'y a plus cette lutte qui a été organisée en Angleterre contre le hooliganisme et qui a pacifié les stades.
C'est la fin de la première partie du Café des Sports. On se retrouve juste après la pause pour continuer à parler de football.
Et si le temps d'un...
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Retour dans Radio Foot International dans le Café des Sports de ce vendredi avec Gilles Verdez, Chérif Guémour, Xavier Barré et Alejandro Valente. Direction, nous aussi, les JO. Les JO qui touchent à leur fin au Brésil et les finales des sports collectifs hein, qui se profilent en volley, en handball ou encore en foot avec eh bien, la finale des filles et celle des garçons. Et un point commun entre ces deux finales, je vous le disais tout à l'heure, c'est la présence de l'Allemagne. Alors honneur aux filles qui joueront d'ailleurs dès ce soir face aux Suédoises. Les Allemandes auront une chance de remporter leur première médaille d'or. Les Suédoises aussi d'ailleurs. Hein. Et c'est 3 bronzes pour l'Allemagne jusqu'à présent. On le sait, c'est une forte nation de football féminin, alors que les Brésiliennes, eh bien, à leur grand désespoir, elles ne tenteront de décrocher que le bronze. Elles ont été battues, les copines de Marta, par la Suède d'ailleurs. Aucune de ces équipes, en tout cas, n'a jamais gagné le titre olympique, puisque les États-Unis le gagnent presque à chaque fois, sauf en l'an 2000. L'Allemagne favorite, mais la Suède, l'autre jour nous a dit notre confrère ici, dans ce bureau, la Suède joue à la portugaise, oui, paraît-il, ces Jeux olympiques.
Défensif, elle s'est qualifiée pour la finale en disputant deux séries de tirs au but, d'abord face au Brésil en demi-finale et puis au tour précédent les États-Unis. Donc c'est une équipe qui est extrêmement solide, pas très spectaculaire, mais faut rappeler quand même que le football suédois et le football scandinave en général étaient au top dans les années 80-90. Au niveau du football féminin, quand ils sont arrivés un peu comme les précurseurs. Puis après, ils ont eu un petit coup de moins bien.
Ça existe depuis 1996 hein, pour les filles.
Norvège, oui, Danemark, Suède.
Mais c'est vrai qu'avant, dans les compétitions, les Scandinaves étaient traditionnellement les équipes à battre, avec les Américaines déjà, un peu les Chinoises.
Un peu le Japon.
Et les pays latins sont arrivés qu'après. Et donc, les Suédoises, à défaut d'avoir du génie, elles ont retrouvé cette solidarité qui fait leur force.
Les Brésiliennes ont toujours été quand même assez présentes aussi, au moins jusqu'au quart de finale, notamment grâce à Marta. C'était une puissance un peu. Elles jouent beaucoup aux États-Unis d'ailleurs, les filles.
Mais c'est la loose magnifique. Chez les filles.
Les Brésiliennes.
Ce qui est incroyable, c'est que les Brésiliennes ont battu les Suédoises en phase de poule.
C'est ça.
Elles leur ont mis 5-1 oui. Et en demi-finale, elles.
C'est pas la première fois qu'elles échouent aux portes de la finale ou en finale. Hein. C'est...
Bah non. ça leur arrive. Gilles.
C'est pas le tournoi le plus spectaculaire de l'histoire mondiale et olympique, quand même, le tournoi féminin. Alors.
Il y en a eu des mieux.
Oui, là quand même, c'est très fermé, je trouve.
Alors, bah oui, voilà, c'est ce que disait ironiquement notre conseiller.
Mais oui, alors à la fois, il y a l'arrivée de la rigueur tactique, de la culture de la gagne qui, entre guillemets, professionnalise le football féminin. C'est une évolution sans doute nécessaire, mais je dirais presque que c'est un mal nécessaire parce qu'il y a peu de grandes envolées, c'est très bloqué, l'aspect spectaculaire... Même parfois un peu naïf qu'on avait, on le voit plus du tout. Donc c'est des matchs extrêmement bloqués. Moi je le regrette un peu parce que je trouve que ça perd un peu la spécificité du football féminin.
Alejandro.
Et puis on sait que les équipes brésiliennes ont parfois du mal à gérer la pression quand elles jouent à domicile. On l'a vu à la Coupe du Monde en 2014 bien sûr, mais on le voit aussi un petit peu dans ces deux tournois olympiques, le féminin et également le masculin, puisque on a vu les difficultés qu'a rencontré l'équipe masculine pour démarrer. Donc je suis pas très étonné de voir quand même le Brésil féminin contraint de jouer cette finale pour la médaille de bronze malgré la qualité évidente de cette équipe.
Oui, et de Marta, hein, la fameuse joueuse brésilienne qui a remporté, si je me trompe pas, Xavier, vous me direz le contraire.
40 ballons d'or.
C'est 5. Oui, c'est vrai. Mais c'est elle qui a monopolisé pendant de longues années.
Oui,
l'année dernière, non. Enfin, en début de 2016, mais sinon, c'était elle. Je crois qu'elle en a aligné 5.
Il y a eu aussi une Allemande qui avait été sacrée. J'ai plus le palmarès en tête, je dois vous avouer.
Non.
Mais Marta, sur le ballon d'or féminin. Mais non, c'est sûr que Marta était la star de
la meilleure
joueuse, football féminin. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est un peu vieillissante, aussi.
Oui.
Donc
elle a
28
ans, je crois.
Là où parfois elle faisait la différence, notamment dans les compétitions interclubs toute seule, au niveau international, quand on est face à des équipes un peu structurées, un peu organisées, comme c'est le cas maintenant, Gilles le rappelait, c'est plus compliqué.
En tout cas, pour les hommes, alors vous y faisiez allusion, Alejandro, l'heure est pas décisive, elle est grave pour le Brésil. Quintuple champion du monde, mais on vous le rappelle, qui n'a jamais gagné l'or, alors que pourtant, il y a une espèce de malédiction quand même contre ces Brésiliens, parce que par 3 fois, ils ont été en finale. On va vous le faire entendre un peu séquence souvenir, mais c'était contre la France en 1984 à Los Angeles. L'Olympiade suivante, c'est les Jeux Olympiques suivants, c'est 1988 à Séoul avec Romario notamment, et c'est contre l'Union soviétique. Et enfin, c'est contre le Mexique à Londres il n'y a pas si longtemps et déjà avec Neymar.
Quel jouet de la part de Pijota! Quatro jogos aqui atrás, Serguei. Pegando aí no meio. Eu tô falhando, olha o meio, o que que aconteceu aí? Aquele que ele vinha substituindo.
Aí está a bandeira! México com dramatismo, com o empate de Brasil na compensação, termina conseguindo o ouro!
Alors, en 1984, c'était 2-0 hein, face aux Français. En 1988, c'était après prolongation 2-1. L'Union soviétique donc qui marque ce but incroyable et qui cloue le bec du commentateur brésilien. Et puis en 2012, eh bien, ce sont les Mexicains qui dominent le match puisque le but brésilien surviendra en fin de partie. Il y avait pourtant Neymar, Hulk, Thiago Silva, Pato, Oscar. Une grosse équipe. Peut-être un signe avant-coureur de ce qui allait se passer après, en 2014.
Un peu, oui. Un peu. Non, un peu, parce que moi, je me rappelle des interviews de Thiago Silva.
Déjà désespéré.
Déjà, il commençait. Déjà, dans le football, de toute façon, dans le football brésilien, on avait déjà coupé la Coupe du Monde 2014 et les Jeux de 2016. C'était le sélectionneur brésilien, il était question qu'il chapeaute à la fois l'équipe olympique et l'équipe nationale tellement Dunga. C'était ils avaient ça à l'esprit.
Ouais. Alejandro, il y a une malédiction contre les Brésiliens. Parce que là, ils jouent à domicile, ils jouent au Maracana. Cette finale contre l'Allemagne. Alors contre l'Allemagne.
Mais vous savez, il y a un traumatisme initial qui est les fameux Maracanazo. Quand le stade Maracana est inauguré en 1950 et l'Uruguay qui devient champion du monde à Rio.
Aux dépens du Brésil.
Alors, ces souvenirs ont été ravivés il y a 2 ans par la fameuse défaite 7-1 face aux Allemands. Et donc, évidemment, il y a l'envie tourner la page aujourd'hui, de réussir enfin à être champion à domicile et la crainte de voir l'histoire se répéter. Et on sait que les Brésiliens sont des gens qui s'angoissent assez facilement et qui vivent ça de façon trop émotive, peut-être. C'est le risque.
Oui, face aux Allemands.
Oui, au début du tournoi, je me suis dit, oulala, il y a la volonté tellement d'exorciser les démons que ça
va peser.
Ils ont
raté leurs 2 premiers matchs.
Exactement. Et là, je trouve que sur les derniers matchs, notamment, mais c'était facile, face au Honduras, ils ont retrouvé une certaine insouciance. J'ai l'impression qu'il y a peut-être les prémices d'un renouveau du jeu, plus offensif, on se prend moins la
tête,
plus léger, plus naturel. Donc je pense que si jamais il y a un bon moment pour lever à la fois la malédiction des Jeux Olympiques, revanche sur l'Allemagne, là c'est cette finale.
Ben justement, Elcio Ramalho, un des envoyés spéciaux des RFI au JO, a rencontré Marquinhos à la fin du dernier match quand ils ont éliminé le Honduras sur le score de 6-0. Écoutez-le, Marquinhos, il essaye d'y croire.
Le Brésil est toujours sous pression, encore plus en jouant à la maison, et puis à cause de son histoire, de tout ce que le Brésil a déjà gagné. Mais il faut garder les pieds sur terre. On sait qu'en football, les choses évoluent très rapidement. Nos débuts au JO ont semé le doute, alors qu'aujourd'hui, nous avons un excellent collectif. Toute l'équipe se donne au maximum. Et c'est sûr que l'attente est énorme. Mais pour gagner, il faut le mériter. Cette histoire de favoritisme dans le football, ça n'existe plus. Il faut l'emporter sur le terrain.
Donc l'or, sinon rien pour ces Brésiliens, il faut l'emporter sur le terrain. Les finales ont lieu aujourd'hui et demain, 18h et 22h30, heure de Paris, dans les 2 catégories. Et les 2 finales seront au Maracana. Rien ne va plus dans le football argentin, Alejandro Valente. Même si Lionel Messi a annoncé son retour au sein de l'équipe nationale après un terrible suspense, eh bien voilà que la fédération est à la dérive. Alors, pendant l'Euro, on l'avait un peu perdu de vue, cette AFA, cette association de football argentin, mais elle a été mise sous tutelle par la FIFA à cause notamment des problèmes de direction. Maintenant, on connaît l'évaluation du trou dans ses finances, 30 millions d'euros. Alors, ce qui est surprenant, c'est le paradoxe entre une gestion à peu près désastreuse, non seulement des finances, mais du football local, et puis une Argentine qui fait 3 finales internationales sans gagner les coupes.
Oui, mais ça, c'est l'arbre Messi qui a caché un peu la forêt. Et ces dernières années, l'Argentine, effectivement, en arrivant quand même aux plus hautes instances des compétitions diverses auxquelles elle participait, donnait l'impression d'être un pays très puissant et d'ailleurs numéro un au classement FIFA assez régulièrement. Et pourtant, le football derrière cette espèce de premier plan est très préoccupant. La mort de Julio Grondona, qui avait été le président de la fédération depuis les années 70, a laissé un énorme vide politique. On est incapable aujourd'hui d'élire un successeur en Argentine, mais c'est surtout les côtés financiers qui est aussi assez dramatique. Comme Messi a parlé, a tenu ses propos à l'issue de la Copa América, tout le monde a été un peu étonné, mais c'est vrai qu'il y avait des problèmes logistiques très importants qui s'étaient posés pendant cette compétition. On a appris à l'issue de l'élimination assez lamentable quand même de l'Argentine aux Jeux Olympiques que les sélectionneurs de cette équipe, Olarticoechea, s'est peigné de ne pas être payé depuis des mois, tout comme son staff, que sa femme avait dû même emprunter de l'argent à leur fille pour finir le mois. Tout ça est révélateur quand même d'un état déliquescence qui est très, très préoccupant. Et la preuve, aujourd'hui, devait commencer les championnats. Et les championnats va pas commencer ce week-end parce qu'il y avait pas l'argent.
Et parce qu'il y a aussi une grève d'arbitre.
Et parce qu'il y a une grève d'arbitre, et parce qu'il y a une grève de plusieurs clubs, et parce qu'il y a des clubs en faillite. Et l'État a dû injecté 20 millions d'euros cette semaine pour permettre le début du championnat la semaine prochaine.
Tata Martino, lui, n'est pas payé depuis 8 mois. C'est l'entraîneur qui était allé jusqu'à la Copa América et qui a démissionné. Une coïncidence peut-être, Xavier. On peut se demander si c'est aussi la fin de ce genre de gestion de fédération. C'est la mort d'Avlanche, qui était le grand copain de Grondona, qui sans doute aussi aidait à cacher ces trous derrière la forêt.
C'est effectivement la fin d'une époque dans la gestion, mais il faut reconnaître une chose, la fin de certaines personnes qui ont gouverné le football mondial pendant 30, 40, 50 ans.
Elles meurent.
Et qui n'ont pas forcément préparé leur succession. Ou en tout cas, leur succession ne se passe pas comme ils l'avaient prévu. Avec les révélations.
Exactement. Parce que c'était ça.
Donc, du coup, on se retrouve dans une période de transition. Effectivement, c'est Alejandro expliquait très bien cette situation. Du coup, tout le monde en pâtit, puisque si les joueurs ne sont pas payés, et ça, on sait comment ça se passe en Afrique, quand ils n'ont pas leur billet d'avion, etc., au bout d'un moment, ils viennent plus. Or, la plupart des joueurs argentins, surtout les internationaux, ils évoluent en Europe. Donc, ils ont des bons salaires dans des clubs européens. Donc, si ça commence à leur coûter de l'argent, plus des embrouilles, d'aller plus l'opposition de leur club, il ne faut pas l'oublier, en Europe, d'aller jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, d'aller à Quito ou à Bogota, à 2000 mètres d'altitude, disputer des matchs impossibles et de revenir crever dans leur club et de se faire en plus allumer par leurs supporters, ils vont plus y aller.
Shérif,
on parlait d'un trou de 30 millions. Déjà, il faut savoir que c'est gigantesque, il va falloir le renflouer. Oui. Mais en plus, il faut savoir que pendant des années, la fédération argentine a négocié pour des matchs amicaux très lucratif, c'était la même chose pour le Brésil.
On déplaçait Messi
exactement,
aux États-Unis,
en Arabie, en Asie, donc il y a énormément d'argent qui est rentré, plus le sponsor maillot. Donc on se retrouve avec un trou comme ça. Ça veut dire qu'il y a plus.
L'argent n'a pas été perdu pour tout le monde.
Oui, voilà. L'argent a dû disparaître aussi. Gilles, une chose, c'est que du coup, ce football argentin, par exemple, on a l'impression qu'il a disparu un peu des radars parce que c'était eux, le classico, le fameux Boca River et tout. On a du mal à en parler et même à s'y intéresser.
Oui, alors. Il y a plusieurs choses. Moi, je considère quand même que c'est un mal pour un bien. Alors, c'est difficile de dire ça alors qu'il y a un trou de 30 millions. Mais quand même, globalement, je trouve que le fait que ces carences de gestion soient révélées au grand jour, c'était indispensable. C'est tout le football mondial, ce qui est totalement paradoxal, qui en ce moment est englouti sous de l'argent venu de partout, parce que le football mondial est prospère, il y a des sponsors qui arrivent, on injecte de l'argent, il y a des transferts très lucratifs, et il y a des fédérations dont la gestion s'écroule. Pour moi, c'est un mal nécessaire, une étape à passer. Les clubs argentins mettront du temps, mais ils s'en remettront. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Donc c'est exactement comme c'est aussi ce qui s'est passé à la FIFA. Ça ne pouvait plus continuer. Alors Shérif disait, est-on sûr qu'un système s'effondre ? Pour moi, il fallait que ce système change. Et pour que ça change, il faut qu'il y ait des scandales qui soient révélés. Et après, eh bien, on remédie à ce mal.
Mais en plus, il y a un phénomène qui est propre à l'Argentine, quand même, qui explique en grande partie les problèmes actuels. c'est que le gouvernement précédent, celui de Mme Kirchner, avait décidé de nationaliser le football, c'est-à-dire que les chaînes publiques devaient diffuser la totalité des matchs et elles considéraient que c'était un droit qu'elles devaient offrir aux Argentins. Donc du coup, le football, qui par essence est une activité privée, devenait tout d'un coup une activité publique. C'est-à-dire que l'État devait priver de l'argent d'autres services comme la santé ou l'éducation pour donner de l'argent au club. Et c'était quelque chose qui ne pouvait pas marcher. Et aujourd'hui, évidemment, l'Argentine doit aussi réformer ce système et trouver un modèle, peut-être Premier League, comme tout le monde veut imiter la Premier League. Donc, la création d'une ligue professionnelle afin de faire face aux dépenses croissantes qu'occasionne un championnat.
Vous devriez leur faire un petit mémorandum à cette AFA, Alejandro, avec votre grand ami Carlos Bianchi. Shérif, pour terminer.
Non, la seule certitude qu'on peut avoir sur l'Argentine, c'est que l'Argentine, à mon avis, conserve encore le plus grand réservoir de talents. Je dirais pas la même chose du Brésil, même s'il y a encore un grand pays de football, d'accord, il y aura encore des... C'est à peu près la seule certitude que personnellement, moi, j'ai, qui me rassure un peu sur l'avenir. C'est pas le cas de tous les pays. Et quand
côté
on
tactique,
voit...
il y a aussi des grands tacticiens.
Parce que quand, on voit régulièrement, c'est pas le cas du Brésil, hein, parce que eux, ils ont formaté les jeunes pour le marché européen et tout. L'Argentine, il y a encore des bons dribbleurs, il y a encore des bons défenseurs, des bons attaquants. Voilà, c'est ma seule lueur d'espoir. Pour en revenir maintenant à la gestion de la fédération ou des clubs, je suis pas plus optimiste que ça, non. Alors c'est une bonne chose que ça a été mis à jour, mais parce qu'il y a aussi la situation économique de l'Argentine qui va de pair avec le football argentin.
Exactement.
C'est pas florissant.
Ouais. Gilles, pour terminer.
Pour répondre à Shérif, quand même, au JO, ils ont pas brillé sur le terrain. Hein.
C'était sûrement, Alejandro, vous le disiez un peu, mais c'était sûrement parce qu'il y avait des problèmes ailleurs qu'ils ont un peu lâché.
Les clubs refusaient les joueurs, etc. Donc vraiment, ça a été.
La médaille d'or, ils l'ont déjà gagnée. Alors
en plus,
ils pouvaient se permettre.
Ils
l'ont même gagné en gazon, en hockey sur gazon.
Ah oui, admirable, admirable.
Sur gazon bleu.
Face à la Belgique.
N'est-ce pas, Alejandro?
Et en polo. Non, c'est pas olympique.
Ça donne l'exemple.
Ah, c'est pas olympique.
Klasse gespielt! Ball hinter der Linie! Que Lewandowski, kein Abseits, und das ist die Führung, nein!
On profite de votre présence, Gilles, parce qu'on n'a pas oublié que vous avez un jour écrit un livre au sujet de Franck Ribéry. Ce Franck Ribéry qui est en piste pour sa 10e saison en Bundesliga. À 33 ans, l'ancien international français a commencé avec son club, le Bayern Munich, le championnat. Mais alors que l'équipe débute fort, et notamment en remportant cette Super Coupe d'Allemagne face aux un peu les ennemis du moment que sont les joueurs du Borussia Dortmund, ça commence moins bien pour Francky. Francky coupable d'avoir jouer des coudes un peu trop violemment contre un adversaire du Borussia, mais c'est un mauvais geste qu'il a tendance à répéter. Son entraîneur Carlo Ancelotti l'a rappelé à l'ordre et aussi le capitaine Philippe Lahm.
Je lui ai dit qu'il ferait mieux de ranger ses mains. Il va devoir arrêter ça dans le futur et je crois qu'il a compris. Mais je ne sais pas si ce sera le cas. Avec sa mentalité, je ne peux rien garantir. Je ne suis pas dans sa peau et si cela arrive encore, je ne pourrai pas l'arrêter. Je ne peux pas être derrière lui à chaque fois.
Alors,
il joue du capitaine.
Il joue des coudes, mais il doit ranger ses mains.
Ah, oui. Alors bon, ça taille un peu.
Sa mentalité.
Alors avant, le Bayern était surnommé le FC Hollywood. Ça a bien changé, mais quand même, en Allemagne, on sort vite dans la presse, non pas les couteaux, mais les mots qui fâchent, le capitaine qui taille, l'entraîneur qui s'y met, la presse aussi. Donc tout ça est monté très vite en épingle.
Il y a quand même des gestes récurrents
Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le ton du capitaine Lahm par rapport à son joueur et coéquipier Ribéry, c'est pas très surprenant. En Allemagne, on dit les choses, ça a le mérite d'être clair. Après, c'est vrai que Ribéry, un petit peu, 10e saison, un peu galvanisé, un peu revanchard face à Guardiola, qui l'a taillé également, ce qui a suscité des remous.
On va l'entendre.
Voilà. Il se sent un peu tout puissant, là. Voilà. Et donc, il y va, il donne des coups de coude. Il a une tendance, parfois, à jouer très viril, à montrer des coudes. Alors, il y a aussi une certaine, entre guillemets, hypocrisie de ses coéquipiers, ils le taillent.
Ça leur rend service.
Ils sont quand même bien contents qu'ils mettent quelques coups de coude aux adversaires du Borussia Dortmund, notamment.
Et en plus, il se fait pas exclure. Mais alors, la chose, c'est quand même, il profite en plus en ce moment. On a besoin de lui au Bayern.
Parce que comment
Shérif,
il est blessé,
Robben, une fois encore, blessé, l'est. Donc, et en plus, Ancelotti compte sur lui.
Bah évidemment,
oui,
bien sûr.
Oui, non, mais parce que les saisons dernières, on sait que depuis qu'il a pas eu son ballon d'or, monsieur déprime et ne joue plus.
Non, mais c'est aussi quelque part des gestes d'impuissance, dans le sens où en prenant de l'âge, il a perdu un peu de sa vitesse, il a un peu perdu de son coup de rein, donc il se sert un peu plus de ses coudes. Mais par contre, comme vous venez de le rappeler, il faut peut-être en profiter, Robben et Coman sont pas là. Donc il y a une possibilité de jouer, de renaître et de faire un bon début de saison. Il y a la Ligue des Champions qui reprend dans pas longtemps.
Et justement, vous y faisiez allusion. Alors non seulement il joue des coudes, mais en plus des fois, il joue avec les mots et on connaît Ribéry. Mais il aime bien, c'est tailler les entraîneurs. Une fois qu'ils sont partis comme lui, il reste toujours et que ça fait donc 10 ans, eh bien là, il s'en est pris à Guardiola.
Pep est encore un jeune entraîneur. Il manque d'expérience. Parfois, il parle trop, alors que le football, c'est très simple. Je me sens bien, je suis très motivé. Carlo Ancelotti est un cadeau pour le club. Depuis qu'il est arrivé, je me sens plus en confiance. C'est un grand coach. J'ai besoin de gens comme lui, comme Jupp Heynckes, comme Ottmar Hitzfeld. J'ai besoin de cette confiance en moi pour jouer au maximum avec mes qualités. Avec Ancelotti, on peut réaliser quelque chose de grand.
Alors, Ita, il y a un jeune entraîneur, qui est Pep Guardiola. On croirait que c'est le jeune sans expérience.
Qui a pas gagné grand-chose.
Ouais, moi, je vais quand même reconnaître un mérite à Franck Ribéry, c'est de s'exprimer en allemand.
Bien, en plus, hein. Ah ouais, ouais. Oui,
ouais. Ce qui est quand même pas une langue facile.
Mais il veut plus nous parler en français.
Ce que d'autres, comme Lisa Razou, n'ont jamais fait, en tout cas en public. Lisa comprend l'allemand, mais il ne faisait pas d'interview de conférence de presse en allemand. Donc c'est quand même pas mal. Alors après, est-ce que ces mots sont totalement maîtrisés? Est-ce que parfois ces phrases ne dépassent pas ses pensées? C'est peut-être, on peut peut-être lui accorder aussi ce crédit. Après.
Non, mais il avait déjà taillé d'autres entraîneurs.
Oui, voilà.
Il avait taillé Van Gaal. Hein.
Voilà. C'est ces grands joueurs qui est dans un registre plus comique. On a eu Zlatan au Paris Saint-Germain, qui n'acceptent pas d'être mis en cause parce que ils se trouvent qu'ils sont compte tenu de leur expérience, de leur carrière, ils sont plus importants, ils se croient plus importants que l'entraîneur ou que l'institution. C'est une erreur.
Mais je vais y revenir dans mon carton.
Juste Annie, quand vous disiez il taille ses entraîneurs après. Bien entendu, mais vous imaginez Ribéry taillant Guardiola pendant que Guardiola est là. Non, mais là, il joue plus pendant 2 ans. Bon, hein.
On savait que Guardiola considérait que Ribéry ne comprenait pas très bien ses idées tactiques. Et qu'il avait du mal à suivre.
Oui, mais de là à ce qu'un joueur le dise publiquement quand son entraîneur est là, un entraîneur de ce standing-là, là, c'est pas possible. On peut plus rester après.
Eh bien voilà, pour ce qui est de Franck Ribéry, on le regardera à la loupe ce week-end dans la journée de championnat allemand. Et nous allons vers nos cartons.
Carton jaune.
Il y a un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Shérif, votre carton.
Alors, on parlait de l'institution, donc carton vert à l'institution, l'immense institution qui est le Stade Malherbe de Caen, qui a plutôt bien géré le cas Andy Delors, qui voulait aller au bras de fer avec son club, partir au Mexique, rejoindre les Tigres et tout. Mais bon, l'offre n'était pas assez jugée suffisante pour le club.
Rejoindre Gignac.
Entre autres, oui. Et donc voilà, il a fait sa grève. Finalement, il est revenu à des meilleurs sentiments. Il est revenu dans le rang. Il est parti s'entraîner. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Caen avait besoin d'Andy Delors parce que c'était le joueur vedette, c'était le meilleur buteur. Et on lui a fait comprendre ce que j'aime bien. Caviglia, Gravelaine et Garande, voilà les garants de l'institution, lui ont fait comprendre qu'on pouvait se passer de lui et que de toute façon, il ne céderait pas. Et voilà, Andy Delors est revenu à l'entraînement.
C'est habile, hein, parce qu'il donne un carton vert à Caen pour ne pas donner un carton rouge à
Delors. C'est exactement ça. Je reste positif.
Gilles. Ouais.
Carton rouge à Marseille et ses dirigeants, c'est n'importe quoi. On ne sait pas du tout où va le club. Le mercato, c'est une catastrophe. Qui va rester? Quelle va être l'équipe? On nous sort la semaine dernière Diarra Diaby, voilà le duo enfin qui peut remodeler
du milieu de terrain.
Et paf, aujourd'hui Diarra, une offre turque qui pourrait partir. C'est du grand n'importe quoi. Je reproche quand même à Margarita là ne pas être sérieuse au niveau du dossier de la vente. Certes, elle prend son temps, mais à force de prendre son temps, elle patauge. C'est les supporters qui en payent le prix. C'est intolérable de voir l'OM dans cet état-là.
Ouais. Xavier. On en reparlera en fin de saison parce que l'OM va peut-être finir 6e ou 7e et on trouvera que finalement c'était mieux qu'avant.
Bah, les paris ici ont été faits pour une deuxième partie de tableau, hein,
ouais,
l'autre
ouais,
jour.
Donc, je suis pas aussi catégorique que vous. J'allais donner le même carton vert que Shérif Guémour, comme quoi on s'est pas concerté.
Bon, alors vous en avez un autre.
Alors j'en ai un autre en fait. Alors c'est plus un carton vert léger, c'est pour Gary Lineker qui a présenté Match of the Day, l'émission culte en caleçon, parce qu'il s'était engagé, si Leicester était champion, à le présenter nu, en fait. Et donc, parce qu'il croyait pas du tout que son club, puisqu'il est de Leicester, faut le rappeler, lui qui a été ensuite avant-centre capitaine et buteur de l'équipe d'Angleterre, pourrait être champion. Ils ont été champions, donc il a été pris à son propre piège et il a tenu parole. Voilà, petit carton plutôt clin d'œil amusant.
Et il a encore mon reste apparemment.
Ça manquait d'abou quand même.
Il n'a pas les tablettes de Cristiano, mais quand même. Alejandro.
Moi, comme Gilles, je vais rester dans le rouge parce que bon, on a beaucoup parlé de l'Argentine, mais il y a un autre championnat qui mérite un carton rouge, c'est le grec, qui devait commencer ce week-end et qui va pas commencer. Et peut-être on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer parce qu'il y a une situation de violence extrême dans le stade, une situation de faillite de la fédération, des problèmes structurels incroyables. Et donc ce football grec qui parfois nous avait fait rêver, aujourd'hui est vraiment au fond du trou.
De faillite du pays même, hein, malheureusement.
Oui. Mais ça va ensemble souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de l'Argentine. Radio Foot donne un carton vert à un buteur de Championship. Il s'appelle Shane Duffy, c'est un international irlandais. Il a inscrit 3 buts en 3 journées. Mais alors ce qui est amusant, c'est qu'il est défenseur et en fait ses 3 buts ont été inscrits contre son camp des cadeaux à Wigan et à Cardiff. Shane Duffy, qui avait participé à la victoire contre l'Italie durant l'Euro, mais qui avait aussi joué contre la France en 8e de finale et qui avait été expulsé. Donc Shane Duffy, peut-être qu'il faudrait qu'il s'arrête quand même de marquer des buts, parce que je crois pas que c'est pour ça qu'il est inscrit dans ce club. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci, messieurs, d'y avoir participé. Merci beaucoup. Merci aussi à Jean-Pierre Bessière qui m'a aidé à préparer l'émission et à Abdel Marzouk qui était à la réalisation. On se dit à lundi. Les Jeux Olympiques de Rio.